Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, une émission bien spéciale puisque ça sera notre dernière pour cette année avant de faire les cigales pendant cet été. Hein, Michel, bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Dernière émission sur FM+, pour ce qui me concerne, puisque je vous quitterai pour passer, disons, de l'autre côté de l'autoroute, c'est même pas de l'autre côté du Vidour, puisque je serai sur Radio Alliance Plus, mais nous resterons toujours connectés à travers les ondes, bien évidemment. Mais très heureux de partager cette émission avec vous, Michel, qui nous avait permis pendant tous ces semaines passées à naviguer dans les méandres, pas n'importe quel méandre, les méandres de l'amour, et vous nous avez pu permettre à ceux qui sont amoureux, qui sont atteints par un chagrin d'amour, ou tout simplement pour pouvoir déclarer sa flamme à l'être qui fait battre son cœur. On peut s'inspirer, c'est vrai, de traits d'esprit des plus grands auteurs de la littérature afin de trouver les mots justes sur vos sentiments, un peu comme Cyrano de Bergerac. Alors il faut faire son choix, et parmi justement les choix qu'on peut faire, c'est de comprendre en fait en profondeur ce sentiment, comment il se décline, et vous nous avez permis de découvrir tout cela, les amours impossibles, les coups de cœur, les sans-amour, les poèmes d'amour, les lettres d'amour, les rencontres d'amour, faire l'amour, mots d'amour, poésie d'amour, chansons d'amour, chagrin d'amour. Vous avez pu nous aider à découvrir tous ces méandres des sentiments du cœur, et on vous remercie, et on arrive donc là au dernier chapitre, mes derniers chapitres radiophoniques d'ailleurs. Votre livre est toujours à disposition pour ceux qui souhaiteraient revisiter pendant cet été. Peut-être il y a des coups de cœur de l'été. Ça vous aidera peut-être à bien discerner l'heureux ou l'heureuse de votre cœur. N'est-ce pas, Michel ?
Oui, absolument. Alors là, nous nous acheminons vers la fin de mon ouvrage. Nous avons déjà abordé la question de la finitude de la vie. La finitude, c'est le fait que la vie est mêlée. Il y a du sublime et il y a du médiocre. Hein. Alors, on voudrait toujours que la vie ne soit que sublime, mais en fait, cette exaltation est promise à une catastrophe, une chute, comme je l'avais dit à propos d'Icare, qui à force de vouloir s'approcher du soleil, ensuite est tombé dans la mer et s'est noyé, ses ailes ayant fondu. Hein. Bon, alors voyez, le destin de l'exaltation, c'est ça. On ne peut pas avoir une vie amoureuse qui n'est faite que de moments parfaits, que d'instants sublimes. À l'inverse, si on se banalise, hein, eh bien, on résigne justement toute ambition, hein, et finalement, donc le destin est celui d'Anté, hein, qu'il trouvait, qui retrouvait des forces toutes les fois qu'il touchait la terre, d'une certaine façon, hein. Donc savoir garder contact avec justement le sol. Alors, je ne veux pas dire que le terre-à-terre est primordial dans une relation amoureuse, mais simplement, il ne faut pas faire abstraction ce terre-à-terre. Alors, voici un conseil que je donnerai aux amoureux. Hein. Voyez lucidement le prosaïsme de la vie, l'imperfection des choses. Ne vous en désolez pas, car c'est à partir de cette conscience qu'autre chose, par creusement et par réflexion, pourra apparaître. En vérité, et Kafka l'a dit très bien dans un texte qui s'appelle « Méditation sur le péché, la souffrance et le vrai chemin », voici ce qu'il dit « Il y a deux péchés capitaux humains d'où tous les autres dérivent, l'impatience et la paresse. Ils ont été chassés du paradis à cause de leur impatience, ils n'y rentrent pas à cause de leur paresse. Mais peut-être n'y a-t-il qu'un seul péché capital, l'impatience. Ils ont été chassés à cause de leur impatience. À cause de leur impatience, ils ne rentrent pas. » Alors c'est une parabole, en marge évidemment du récit de la Genèse. Alors finalement, l'impatience est quelque chose que nous avons au fond en nous. Hein. Je comprends très bien qu'on la ressente. René Char nous dit « La vie commencerait par une explosion et finirait par un concordat. C'est absurde. » Alors, c'est vrai que la vie, justement, récuse toute impatience. On pourrait dire, alors en jouant sur les mots, vous savez, Redouane, que j'aime bien jouer sur les mots, sur les locutions, sur les proverbes. Alors, je pourrais dire que la vie est faite de concessions à perpétuité. Hein. C'est-à-dire, il faut savoir s'accommoder du terre à terre. Et comme le petit poussé se met derrière lui ses petits cailloux, de la même façon, nous laissons derrière nous toutes nos illusions perdues. Hein. Ou encore, que, imaginez un mouton qui laisse toujours des lambeaux de sa laine aux épines qui bordent le chemin. Cette comparaison, je la prends à Musset dans sa nuit de décembre, vous voyez. Je pense aussi à Rimbaud, puisque mon livre est truffé de citations littéraires. Je suis un professeur de lettres par nature, hein, même en étant à la retraite maintenant. Alors Rimbaud écrit dans la chanson de la plus haute tour « Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent ». Mais aujourd'hui, on se banalise et on pourrait dire, en parodiant Rimbaud, le temps nous entraîne ou les corps se prennent, les corps seuls et pas l'âme. Car très souvent, nous aspirons à l'union des âmes, mais nous nous contentons du contact des corps. Alors nous tombons dans la négligence, ou bien dans cette paresse dont parle Kafka, et la paresse mène à la banalisation, à la mort spirituelle. Donc l'impatience mène à une exaltation non contrôlée, la paresse mène à la banalisation. Alors en fait, il n'y a que la forme artistique qui finalement est en ordre, hein. Par exemple, Sartre, dans La Nausée, analyse les mots. Il nous dit que des mots comme amour, comme haine, ce sont des beaux mots qui font rêver. Mais dans la réalité, les références, c'est-à-dire les notions qu'ils désignent, ces mots n'existent pas. Il n'y a que des individus par nature imparfaits qui éprouvent ces sentiments. Et les sentiments ne sont parfaits que dans les mots. Il n'y a que moi qui aime, moi qui hais, et je ne suis pas, ou au moins pas toujours, à la hauteur de mon langage. Sartre nous parle à cet égard d'une pâte molle qui s'allonge dans tous les sens, qui se liquéfie sans forme définie. Donc, voilà, le rêve de tous les amoureux, ce serait que la vie soit faite constamment de moments parfaits, d'une addition d'instants sublimes, qu'elle soit comme un théâtre où chacun s'avance sur la scène et dise des paroles définitives, éprouve des sentiments eux aussi définitifs, des sentiments purs et sans mélange. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'au théâtre, en tant qu'œuvre artistique, que la vie a une forme. Hein. La perfection artistique, en un sens, condamne l'imperfection de la vie. En fait, la rigueur, la nécessité, l'allure, le style constant et continu sont étrangers à la vie, et la vie est sans style. Hein. Elle n'a que très rarement ce poids ontologique, cette dimension de nécessité ou de destin qui n'existe que dans l'art. Truffaut nous dit dans La Nuit américaine qu'un film est comme un train qui s'avance dans la nuit en suivant des rails luisants dans l'obscurité, dans une progression nécessaire que rien n'arrêtera. Hein. Et la vie, au contraire, elle est errante, hésitante, dédaléenne, labyrinthique. Prenons un exemple, Redouane. On a un rendez-vous d'amour, alors on se fait une fête de ce rendez-vous. Eh bien, ce jour-là, justement, comme par un fait exprès, on a un bouton sur le nez, vous voyez. Ou bien on s'avance théâtral vers le partenaire. Mais à ce moment-là, précisément, on tousse, ou on rougit, ou on transpire. Ce n'est jamais, ou au moins ce n'est jamais tout le temps, comme dans les livres, dans les films, dans les chansons. Il y a un film de Woody Allen que j'aime beaucoup, c'est La Rose pourpre du Caire. Il est sorti en 1985. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Redouane.
Oh oui.
Oui, vous l'avez encore. Vu. Bon, l'héroïne, qui est Mia Farrow, hein, dit à l'acteur qu'elle admire et qui est descendu de l'écran, elle lui dit quelque chose de très naïf. Où est mon fondu, hein, le fondu, hein. Mais dans la vie, il n'y a pas de fondu. Et cette héroïne, Mia Farrow, hein, elle est comme tant d'autres, une fille d'Emma Bovary, hein, l'archétype du désir insatisfait. Voici ce qu'écrit Flaubert dans son roman. « Emma cherchait à savoir ce qu'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion ou d'ivresse, » qui lui avait paru si beau dans les livres, elle ne pouvait s'imaginer à présent que le calme où elle vivait fût le bonheur qu'elle avait rêvé. En effet, le mot amour n'existe que sur le papier, si vous voulez. Remarquez que déjà, bien avant Emma Bovary, Don Quichotte avait eu le même problème, c'est-à-dire il avait l'esprit plein de romans de chevalerie, hein, et puis il est parti sur le monde à la recherche de sa belle, de sa dulcinée. Hein. Donc je vous hoche la tête, Redon, vous êtes hispanisant,
oui,
hein,
oui.
Vous connaissez bien le texte, vous connaissez l'espagnol plus que moi. Alors voilà, donc qu'est-ce que tout cela dont je n'ai pas rêvé, vous voyez ? On reste seul dans la vie entre ce qu'on a désiré et qu'on n'a pas, et ce qu'on a et qu'on n'a pas désiré. Donc nous pouvons dire, je suis le tombeau vivant de mes propres rêves. Et encore, quand je dis vivant, je pose une interrogation, est-ce que je suis encore vivant ? Voyez, il n'y a que l'art qui met la vie en ordre. L'exaltation durable n'existe pas. L'homme n'est capable que d'effusions passagères. Et on a vu même dans une émission précédente, rappelez-vous Redouane, que la fin même de l'amour, la mort de l'amour, la mort et la fin des souffrances corrélées à l'amour sont peut-être pires que le fait de les éprouver, puisque l'envergure d'un destin nous y est refusée. Vous savez Redouane, que dans la catéchèse traditionnelle, on disait autrefois que l'enfer était un lieu de peines éternelles. Hein, bon, mais moi je pourrais renverser toujours, comme je le fais, les formulations, comme j'aime à le faire. Je peux dire que l'enfer, c'est qu'il n'y a pas de peines éternelles, vous voyez. C'est-à-dire qu'on cesse d'aimer. Cesser d'aimer est encore pire, pire peut-être que de souffrir d'amour. Alors bien sûr, pour rassurer les auditeurs qui pourraient trouver ce tableau trop noir, je dirais que je ne prends pas à mon compte les conclusion que je viens d'exposer. Mais c'est exprès que je viens de brosser ce tableau qui est quand même lucide. Si le lecteur se désespère de ce tableau, mon but c'est de l'acheminer vers un terme salvateur qui est la seule politesse possible opposable au désespoir, par quoi certains ont même défini la chose, je veux dire l'humour. Alors comme première virgule musicale, nous allons écouter une chanson de Bobby Lapointe, qui est un de mes chanteurs préférés, qui montre bien ce décalage entre l'idéal et la réalité.
Sur le trottoir, j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir, j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. J'étais sorti dans la rue pour acheter des allumettes. Soudain, il m'est apparu, j'ai perdu la tête, bête. Quand j'ai vu dans ses grands yeux les doux reflets du paradis. Ses grands yeux d'un bleu si bleu, le bleu du paradis. Pour passer inaperçu, il n'avait pas pris ses ailes. Et tout d'abord j'avais cru une demoiselle belle. Mais j'ai vu dans ses grands yeux les doux reflets du paradis. Ses grands yeux d'un bleu si bleu, le bleu du paradis. Pour vêtir son corps mignon dans un bout de blanc nuage, il s'était taillé jupon et gentil corsage. Sage, sur le trottoir j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. De sa radieuse auréole s'était faite une ceinture, mais autour de sa figure voltaient boucles folles, drôles. Sur le trottoir j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. Soudain passe un monsieur bien vêtu mais gueule minable. L'ange a murmuré, tu viens? Combien? 500 balles. Diable. Et tous les deux, ils sont partis, mon ange descendu des cieux, mon ange bleu du paradis et le vilain monsieur.
Toujours à l'écoute du réseau FM+, sur le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou bien le 103.1 sur Radio Alliance Plus, agglomération nîmoise, des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron et donc une petite note d'humour qui va introduire le deuxième volet de notre émission, Michel.
Oui, mais on voit bien dans cette chanson l'opposition entre la projection fantasmatique que se fait le narrateur hein, sur cette jeune femme, hein. Il croit que c'est un ange, une fée, etc. Et puis il s'avère que c'est simplement une prostituée. Hein. Il retombe dans la réalité. Alors que faire ? Ou bien on se désespère, Redouane, ou bien en éclate de rire. Voilà. Hein. Eh bien, je conclus mon livre par l'éloge de l'humour qui me semble essentiel pour vivre une expérience amoureuse. Parce que sinon, on a toutes les raisons de se désespérer. Hein. Parce que toute histoire d'amour rencontrera, à un moment ou à un autre, la finitude que je viens d'exposer. C'est le prosaïsme ordinaire de la vie. La vision désenchantée, même fugitive, que nous pouvons avoir de l'autre à tel ou tel moment. Ou encore, si on a commis l'erreur de vivre ensemble, vous savez, c'est mon dada, ça, hein, je prêche pour une certaine distance hein, entre les amoureux. Si on a commis l'erreur de vivre ensemble, alors c'est ce qu'on appelle le syndrome des chaussettes sales, hein, c'est-à-dire un tue-l'amour, en quelque sorte. Hein, voilà. Alors on peut souffrir de cela, et même on peut vouloir, pour cette raison, mettre un terme à une relation dont on rêvait qu'elle fût parfaite, vous voyez. Toute la thématique d'Anouilh, par exemple, dans son théâtre, c'est ça, hein, c'est refuser la quotidienneté, c'est refuser la banalité, je ne sais pas si vous
oui,
avez
ça
vu...
Me
le...
fait, ça me fait penser à un film, La Crise, je ne sais pas si vous vous souvenez de Colin Serrault.
Ah non, celui-là, j'ai pas vu.
Donc, à un moment donné, durant le film, il y a l'amant qui vient sonner, toquer à la porte tard le soir, en disant, voilà, ça y est, je me suis décidé, j'ai quitté ma femme pour toi, je viens vivre avec toi. Et lui, il dit, mais ben, je veux pas que tu viennes vivre avec moi. Elle dit, ça me convient très bien comme on est comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui te plaît pas? Il dit, mais j'ai pas envie que tu viennes avec tes copains regarder la télé, regarder ceci, ça. C'est-à-dire, tout ce qu'elle n'a pas envie ouais. de vivre au quotidien et qui, est, effectivement, ça peut être du. Tue l'amour pour certains couples.
Absolument. Vous savez, la phrase de Saint-Exupéry, aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Eh bien, ce qu'elle donne dans la vie quotidienne, c'est regarder la télévision ensemble, côte à côte, dans la même direction. Alors, effectivement, pour certains êtres hypersensibles, eh bien, cette perspective est dégradante et peut justifier, donc, même une rupture. Mais je pense que l'on aurait tort de se désespérer du prosaïsme de la vie. On oublierait le rôle salvateur du jeu. Hein. Et en élargissant, on oublierait le rôle salvateur de cette faculté vitale dont Rabelais nous dit qu'elle est le propre de l'homme, c'est-à-dire le rire. Et pourquoi, au sein même des difficultés que nous rencontrons, pourquoi ne pas réécrire, pour reprendre le titre d'un roman de Milan Kundera, le livre du rire et de l'oubli? Vous voyez, dans le domaine des spiritualités, je pense par exemple à l'éclat de rire du moine zen face à la perplexité des disciples qui se posent indéfiniment des questions insolubles. Pour montrer leur totale inutilité, eh bien, cet éclat de rire peut préparer au satori, c'est-à-dire à l'illumination dans le bouddhisme japonais. Il faut donc en tirer leçon. Alors, qu'est-ce que c'est que le rire? Le rire, c'est une définalisation radicale par rapport à la poursuite acharnée que nous faisons ordinairement de tous nos buts dans la vie. Le rire implique un regard distancié, et donc cette objectivation dont j'ai déjà parlé à propos du retrait nécessaire des projections que nous faisons d'habitude sur les êtres dans une histoire d'amour. Hein. Le rire exclut par conséquent la voracité et l'immédiateté de la pulsion, dans quelque sens que cette pulsion se dirige, et le rire nous permet de nous voir de l'extérieur, comme par les yeux d'un tiers. Redouane, je vais prendre un exemple. Imaginons que je regarde avec convoitise quelque chose qui me fait envie dans la vitrine d'un magasin. Nous sommes à l'époque des soldes, Redouane. Donc, les gens se précipitent là-dedans. Hein. C'est l'époque de la fièvre acheteuse. Hein. Voilà. Alors, je regarde cette chose qui me fait envie, mais... À un moment, fugitivement, je vois mon propre reflet dans la vitre du magasin. Alors, je me vois en train de désirer. Et cette vision qui objective ma situation peut me permettre de me délivrer de cette avidité même qui, finalement, n'est pas moi, n'est pas mon vrai moi, mon moi profond. Hein. Ainsi, quand nous nous voyons de l'extérieur, nous pouvons rire de nous-mêmes. La centralité de notre ego disparaît, ainsi que notre paranoïa naturelle, ce que j'ai appelé le tout à l'ego, hein, la paranoïa où l'ego est survalorisé. Alors le rire constitue bien une métanoïa, hein, c'est le terme grec dont le Nouveau Testament se sert pour utiliser la conversion ou le retour à Dieu. Hein. Je pense plutôt que c'est une conversion à soi qu'il faut faire, hein, personnellement. temps, eh bien la métanoïa du rire, je veux dire le changement d'état d'esprit que le rire instaure en nous, permet de voir toute situation avec un maximum de recul, un maximum de largeur d'horizon et donc de prudence. Un proverbe juif nous dit « Dieu rit quand l'homme pense », vous voyez ? Alors, c'est vrai qu'il est très difficile de faire rire un paranoïaque. Hein. Il y a eu un livre de François Roustan chez Odile Jacob, paru en 1995, dont j'aime beaucoup le titre « Comment faire rire un paranoïaque ?» Vous voyez ? Bon. Mais il faut méditer longuement cette question, car cette question est très importante dans les relations avec autrui. Parce que le rire permet d'entrer dans les raisons de l'autre. Kafka nous dit très bien, dans le même texte que j'ai cité tout à l'heure, hein, « Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. » C'est-à-dire, va du côté du monde, essaie d'entrer dans les raisons de l'autre. Et puis, le rire est donc... avec son vêtement quotidien qui est l'humour, sont les meilleurs gages non seulement d'une bonne socialisation qui sera exempte d'agressivité et qui sera compréhensive, mais aussi un gage de la réussite dans la durée d'un amour mature, hein, vous voyez hein. Donc, j'ai déjà employé l'image suivante dans une émission précédente. J'ai dit que la vie, c'était une TSF. Hein, une TSF. Pour quelques instants de musique sublime, par exemple de Mozart, il nous faut subir les parasites, les crachotements, les interférences, les miaulements des ondes folles. Hein. Un instant, on entend Mozart, l'instant d'après, on entend les grésillements, ou le spot publicitaire, ou l'interférence de la station voisine. Donc, Mozart est constamment violé par de la friture, et là je vois l'image et la loi de l'existence. Alors je prends cet exemple à Hermann Hesse, à la fin de son roman Le Loup des Steppes, qui est tout inspiré des idées de Carl Gustav Jung. Alors bien sûr, quand il écrit ce roman, il n'y avait pas la FM, il n'y avait pas la modulation de fréquence comme maintenant, hein, mais la TSF était beaucoup plus, comment dire, polluée.
Incertaine
et polluée. Mais actuellement, je dirais que ce qui la pollue sur les radios commerciales, c'est pas le cas, grâce à Dieu, de FM+, c'est la publicité. La publicité. Alors donc, vous êtes au sommet du sublime, Mozart, Bach, tout ce que vous voudrez, Beethoven, et puis d'un seul coup, après, la marque de lessive, vous voyez.
Cochonou.
Voilà, oui, voilà, tout à fait. Hein. Alors, donc, c'est ça la vie. Hein. Dans la vie, on ne peut pas zapper. On ne peut pas zapper. Il faut prendre au sérieux, donc, ce qui en vaut la peine, et il faut rire du reste. Il faut admettre ce mélange que je viens d'évoquer. Il faut s'émouvoir ou s'émerveiller quand il y a lieu de tels instants magnifiques, mais à côté de cela, il faut admettre le sordide, le grotesque, et il faut s'en moquer. Il faut regarder les choses en farce, selon le mot de Louis Kutener, un surréaliste belge. Hein. Ainsi, l'humour est, me semble-t-il, pour chacun, la meilleure garantie de sa santé psychologique. L'humour prouve la plasticité de l'être, sa capacité à échapper au refuge stable des certitudes. Il ne s'agit pas de nier l'exaltation, mais il faut nier l'orgueil de l'exaltation. Et quant à la banalisation, une part de banalisation est inévitable. Hein. Alors, bien sûr, le tragique demeurera, même quand le sérieux disparaîtra. Hein. Il n'y a pas de sérieux, mais il y a le tragique, dit Monterland dans son roman Le Chaos et la Nuit. Alors, le problème de la finitude, dont je suis parti, se trouve enfin non pas résolu, puisque la finitude n'est pas supprimée, mais il est abordé correctement. Rien n'est nié, la vie est lucidement cernée. La vie, c'est comme un volume disparate, si vous voulez, un livre disparate où il y aurait du Shakespeare interfolié avec du Feydeau. Hein. Tout est mélangé. Et je navigue dans l'existence entre deux interjections qui sont faites alternativement d'admiration et de mépris. La vie est faite, alors vous voyez, elle est faite de « Oh !» et de « Bah !» Vous voyez hein. Donc, c'est ça la vie. Hein. On admire, on s'émerveille, et puis on se dit « Bon, ben, ça existe, mais il ne faut pas le relever. » Donc, beaucoup ont défini l'humour comme la politesse du désespoir. Je pourrais dire aussi que c'est une façon élégante de se sortir d'une situation, sans pour autant se tirer d'affaire. Hein. Par exemple, il faudrait mourir avec savoir-vivre, hein, vous voyez hein, d'une certaine façon. La pièce est jouée, acta est fabula, comme on dit en latin, la pièce est jouée, tirez le rideau. Alors, j'ai déjà, je crois, emprunté dans une émission précédente mon propos, la comparaison suivante. L'humour, c'est comme les essuie-glaces, hein. Ils permettent d'avancer, mais ils n'empêchent pas la pluie de tomber, hein. Mais grâce à l'humour, justement, on n'est pas paralysé. Le Figaro de Beaumarchais nous dit « Je me hâte de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». Et voyez aussi le mot de Chamfort, la plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri. Hein. Alors, je pense que par la relativisation qu'opère l'humour, il est en général un modèle d'objectivité et d'honnêteté, d'impartialité. C'est pourquoi je pourrais le définir aussi, selon le mot de Jules Renard, comme la propreté morale et quotidienne de l'esprit. Alors, dans une relation amoureuse, je crois que la meilleure qualité que l'on peut chercher, c'est chez un partenaire avec qui on veut engager cette relation, avec qui on veut nouer des liens, c'est l'humour. Voilà, hein. L'humour, si l'autre est capable d'humour, en tout cas, il ne nous fera pas de mal, car il n'est pas psychorigide. Il ne voudra pas nous imposer sa propre façon de voir les choses. Et alors, vous savez très bien, Redouane, que la brutalité idéologique est tout aussi dangereuse, et sinon plus, que la brutalité physique. Hein. De même que la maltraitance ou la cruauté mentale sont des choses plus dangereuses que la maltraitance corporelle. Dans un monde d'humoristes, les chefs, les grands ou petits chefs, les ayatollahs divers, grands ou petits aussi, sont impossibles. L'humour, c'est le meilleur antidote au fanatisme. Alors on sait que tout ce qui concerne le rire est tabou dans les cultures closes, dans les esprits clos aussi, figés sur leur certitude. C'est Bergson, le philosophe Bergson, qui dans les deux sources de la morale et de la religion oppose ce qu'il appelle la pensée close à la pensée ouverte. Hein. Eh bien, manifestement, le rire est du côté de la pensée ouverte. Alors, tout le monde connaît Le nom de la rose d'Umberto Eco, sinon pour avoir lu le roman, au moins pour avoir vu le film de Jean-Jacques Hano. Hein. Eh bien, dans Le nom de la rose, il nous est dit qu'un traité d'Aristote sur le rire et la comédie, qui est exhumé en plein intégrisme religieux du Moyen-Âge, peut être le salut humain de cette époque. Il y a là un symbole évident, hein. On admettait au Moyen-Âge, voyez, le sourire, par exemple, le sourire de l'ange de Reims. L'ange, c'est le fil rouge de cette émission, un petit peu, hein. On va le voir. Le sourire de l'ange de Reims était admis, mais on condamnait le rire, voilà. On condamnait le rire parce qu'il déformait les traits, leur donnait un aspect animal, un aspect simiesque, c'est-à-dire comme un aspect de singe, si vous voulez. Et aussi, on disait que le Christ n'avait jamais ri. Mais alors, je ne sais pas votre avis, Redouane, je vous vois très dubitatif, et vous avez raison, mais de ce qu'on ne nous montre pas, Jésus, le Christ, en train de rire dans les textes, hein, il ne suit pas qu'il ne l'ait pas fait, vous voyez, hein. Bon, l'argument a silentio n'est pas probant. A silentio, c'est-à-dire à partir du silence. Hein. Bon, que Jésus ne nous soit pas montré comme riant, ne veut pas dire qu'il n'est pas ri. Hein. C'est bien votre avis, Redouane.
Oui, les évangiles ne sont pas un recueil des bons mots de Jésus. Donc, par conséquent, voilà. Et puis, il y a des hommes politiques, je veux dire, qui paraissent très sérieux, très rigoureux, rigoristes, et qui pourtant, aussi, dans les à-côtés, sont de sacrés farceurs. Oui, c'est...
Mais bon,
c'était une Moyen-Âge.
Oui.
Le Moyen-Âge a présenté une figure tristounette,
oui,
du christianisme.
C'est comme on dit, Jésus n'était pas marié, mais c'est pas parce qu'on ne nous dit pas qu'il était marié qu'il ne l'ait pas été, vous voyez, ça aussi, hein, bon, donc... cet argument, à silencio, à partir du silence, à partir d'une absence, on ne peut pas prouver quelque chose. Hein, voilà. Alors, puis aussi, je crois que vous avez fait cette remarque aussi, Redouane, dans la vie, la bonne humeur attire toujours plus que la tristesse. Alors, on dit que les femmes sont fort attirées par les hommes qui les font rire. Moi, je l'ai constaté, peut-être vous aussi, hein. Et dans Le Spunz, le film de Marcel Pagnol, on entend la chose suivante, méfiez-vous des comiques, ce sont ceux qui font le plus de conquêtes. Et alors, dans le film de Pagnol, Fernandel, qui voulait être un acteur tragique, qui voulait jouer la tragédie, il est comme rasséréné par cette remarque, et effectivement, comme il n'a plus, on ne lui propose que des rôles comiques, mais il s'en console à partir de ce qui vient d'être dit. Alors, si on me demandait maintenant quelle est la plus grande qualité d'un être humain, je répondrais en conclusion, c'est l'humour. Et si on me demandait quel est le meilleur socle pour assurer la profondeur et la durée d'un amour, je répondrais exactement la même chose. Alors, en deuxième virgule musicale, puisque nous sommes toujours dans l'ange, il s'agit d'une chanson, belle chanson d'Adamo, Salvatore Adamo, « La part de l'ange ».